Bon, on va pas relire tout le premier chapitre de Matthieu, parce que c'est sur cette généalogie que je vais essentiellement vous parler aujourd'hui. On ne va pas le relire parce qu'il est un peu long. Simplement, juste vous remettre dans le bain, je vous lis le premier verset. Livre de la jeunesse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc on est dans le premier verset du premier chapitre du premier évangile qui s'appelle l'évangile de Matthieu. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra. Et on lit ça dans toutes nos églises, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, soit la nuit de Noël, soit le dimanche précédent Noël, soit un autre moment, mais enfin, en tout cas autour de la nativité, toutes les églises le lisent, et on voit la plupart du temps, peut-être pas toujours, mais la plupart du temps, l'assistance écoutée avec des grandes oreilles, en disant, mais quand est-ce que c'est engendra, ça se termine. Parce que tout le monde s'ennuie un petit peu, parce que c'est un peu long, parce que ça fait une page et demie, c'est un peu long, quoi, engendra. C'est pas aux jeunes, les jeunes qui me diront le contraire, on est d'accord, on s'ennuie un peu. Donc, la question c'est, comment on fait pour écouter ça avec toutes ses oreilles, avec le cœur ouvert, et de ne pas s'ennuyer? Parce que le but, c'est de ne pas s'ennuyer, c'est d'être en alerte, parce qu'on se dit, mais pourquoi le parchemin coûte cher, pourquoi Matthieu met autant de temps à nous dire que Jésus, il est né de toute cette lignée avant lui. Alors, on va essayer de démêler un peu l'histoire. Première chose, donc Matthieu, enfin la traduction, on va plutôt dire comme ça, la traduction du grec de Matthieu, c'est Livre de la Genèse. Bon. En réalité, ce livre de la Genèse traduit une expression hébraïque qui se dit Sefer Toledot, qui pourrait se traduire, qui devrait se traduire beaucoup plus par livre des histoires, ou de l'histoire, ou bien livre éventuellement des engendrements. Parce que ce mot « toledot » en hébreu signifie aussi l'histoire, aussi bien que les engendrements. Et vous savez que pourquoi Matthieu fait une grande généalogie comme ça, c'est parce que c'est le vrai fils d'Israël, il veut montrer dès l'ouverture de son évangile que ce livre-là, il a quelque chose à voir avec toutes les généalogies qu'on dit dans le Premier Testament. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Notamment, déjà, dès le chapitre 5 du livre de la Genèse, livre de la Genèse d'Adam. Et puis, on a tous les... Voilà. Et puis, le chapitre 10 et 11, avant l'arrivée d'Abraham, il y a toute la généalogie, etc. Il y a beaucoup de généalogies. Je ne vais pas vous les dire toutes, parce que là, on est encore là demain matin. Et donc, c'est de vous dire pourquoi on fait des généalogies et pourquoi c'est important que moi, Matthieu, je montre toute la généalogie de Jésus dans les détails. OK ? Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, on ne peut pas parler dans l'esprit sémitique du premier siècle d'un grand personnage, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Il parle avec sa communauté, toute sa communauté juive. Nous sommes dans un milieu, on va dire peut-être judéo-chrétien, mais en tout cas juif sûr. Donc il dit, je vous annonce un grand personnage. De même qu'Abraham, de même que Adam, il a sa généalogie, et bien là, il y a, ou enfin en tout cas la généalogie qui suit Adam, parce que lui, il n'en a pas avant, et bien là, il y a un grand personnage, donc ouvrez bien vos oreilles et regardez comment ça marche, d'où il vient, et pourquoi c'est très important qu'il soit inscrit dans le peuple. Et vous savez que les généalogies, elles ont pris de l'ampleur après le retour d'exil, parce qu'au retour d'exil, il fallait bien, comme on était en exil, il y en a, qui revient d'exil? Est-ce que c'est ceux qui étaient partis? Est-ce qu'ils étaient juifs? Est-ce qu'ils n'étaient pas juifs? Donc on vérifie toute la, on pourrait dire, la lignée de chacun. Pour être prêtre, il fallait absolument être juif. Et puis il y a une autre raison qui m'échappe, mais qui va me revenir, qui fait qu'il fallait absolument avoir une vérification. Et ça, on l'a même inscrit dans le livre d'Esdras. Voilà, pour un mariage. Tels furent les engendrements du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ah oui, alors, engendrement aussi des cieux et de la terre, pour la Genèse. Et en Esdras, chapitre 2, ces gens-là cherchèrent le registre des généalogies, mais ne le trouvèrent pas, alors on les déclarera souillés, exclus du sacerdoce. Donc pour le sacerdoce et le mariage, il fallait la généalogie pour prouver. Donc vous voyez l'importance de l'enracinement dans le peuple. Donc si toutes les généalogies ont une fonction très importante, avec le lien de parenté, pourquoi ? C'est parce qu'il y a l'idée de l'élection divine. C'est-à-dire si un peuple est élu, ça veut dire aussi que chacun des membres fait partie d'une élection. Et donc, chacun de ces membres peut-il honorer, peut-il être représentant de cette élection ? C'est-à-dire de dire, oui, j'ai choisi personnellement Abraham, Isaac, Jacob, etc., David, d'être dans cette élection et de suivre la ligne de l'élection. Donc ça, c'est fondamental aussi, hein. Alors, maintenant, si on regarde bien, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est bizarre. Abraham, il est après David ? Abraham est avant David. Hein. Donc, pourquoi ? Donc, première question, là, vous voyez, tout de suite, il faut se poser des questions. Très important. Pourquoi Matthieu, il sait quand même qu'Abraham est avant David, comme normalement, on devrait tous le savoir. Pourquoi Matthieu nous donne d'abord fils de David, fils d'Abraham ? Voilà, c'est messianique. Voilà, c'est messianique. C'est messianique et c'est le roi Messie. Donc on est en train de nous dire, Matthieu déjà est en train de nous dire, donc vous voyez déjà, rien que le premier verset, vous serez plus attentif dans une semaine, rien que le premier verset, c'est moi, Matthieu, je suis en train de dire, celui que je vous présente, il est le roi Messie. Il est le descendant du roi Messie, c'est le nouveau roi Messie. Et ça veut dire qu'il est roi et prêtre. Et prophète, pardon. Parce que le Messie est un prophète d'abord. Et prêtre aussi, parce que Abraham va être non seulement nommé prophète, mais il sera nommé prêtre parce qu'il va offrir le sacrifice. Donc ça, c'est très important aussi. Et Abraham est cité ensuite. Donc ces deux noms vont, dès le premier verset, nous dire ce personnage qui va arriver à la fin de ma généalogie, les rois, prêtres et prophètes. D'ailleurs, confirmé par l'Épître aux Hébreux. Confirmé par l'Épître aux Hébreux, qui est la seule épître qui dit que le Christ est le grand prêtre éternel. C'est la seule, hein, qui parle du Christ comme prêtre. Sauf que là, c'est sous-entendu. Ensuite, l'autre chose très importante, et ça, tout le monde l'a, là, je pense qu'on l'a dans l'oreille, c'est la place des femmes. Combien de femmes il y a dans cette généalogie ? 5. Il y a d'abord Tamar, Ruth, Bethsabée, Rahab, Bethsabée qui n'est pas nommée, qui est nommée comme la femme de Ouri, et Marie. Et Marie, la mère. Voilà, Ouri qui a donné sa vie. Hein. Bon, voilà. Alors, ça, c'est très important. Donc, ce qui va nous alerter dans cette généalogie, c'est que quelle est la place de ces femmes dans l'histoire de ce peuple ? Et si vous regardez bien, toutes ces femmes ont eu une importance capitale. Mais capitale, toutes. Il y a Tamar d'abord, il y a Tamar et Rahab et Ruth, hein, c'est les trois premières. Donc, je ne vais pas développer, parce que je pourrais, si on a un peu de temps à la fin, on pourra en reparler, mais il faudrait que chacun, on ait bien en tête, Tamar, heureusement qu'elle était là, parce que c'est grâce à elle que finalement la lignée messianique a pu se produire, alors qu'elle s'est prostituée pour ça. Avec son beau-père, elle s'est prostituée, vous vous rendez compte un peu, pour que la lignée messianique, donc vous voyez comme quoi, voilà, hein, ce qui pourrait sembler mauvais aux yeux humains, et d'ailleurs, Judas lui dit, elle est plus juste que moi, elle est plus juste que moi, alors qu'elle s'est prostituée. Donc, hein, parce qu'elle a été le fil qui allait se casser, elle a réussi à prolonger le fil pour que la lignée messianique continue. Rahab, c'est celle qui a sauvé les explorateurs, hein, Jéricho. Grâce à elle, elle a reçu les explorateurs. Et grâce à elle, eh bien, les explorateurs ont pu prendre Jéricho. Enfin, et puis, il y a Ruth la Moabite. Elle aussi, c'est très important, parce que sans elle, la lignée messianique aussi aurait été peut-être interrompue. Hein, puisque elle a, et en plus, Ruth, c'est l'exemple même de la païenne, entre guillemets, en tout cas la non-juive, qui entre dans le peuple juif en suivant sa belle-mère Noémie qui revient à Bethléem, ou en tout cas dans le pays d'Israël, et elle lui dit, là où tu seras, je serai, là où tu seras enterré, je serai enterré, et là où est ton Dieu sera mon Dieu. Voilà. Donc elle entre vraiment par une foi convaincue et personnelle dans la lignée juive, on veut dire. Hein, de, et du coup, elle épouse Boaz et elle engendre Obed, qui va être un des ancêtres les plus reconnus, en tout cas de la lignée de la lignée du Christ, et qui est d'ailleurs aussi nommé. Hein, voilà, Boaz engendra Obed de Ruth. Voilà. Et Obed ou Joved, hein, selon que c'est le grec ou l'hébreu, mais ça peu importe. La matrice féminine est fondamentale. Mais fondamentale, j'en parlerai demain, pour montrer que dans un couple, on dit toujours Abraham, Isaac, Jacob, et on ferait bien de dire les femmes aussi. Parce qu'elles ont parfois, de manière beaucoup plus discrète, une importance presque plus grande, ou en tout cas aussi grande, pour justement que se continue l'élection de la lignée, que ce soit la lignée messianique ou que ce soit le projet messianique du divin. Par exemple, Rebecca avec Isaac et Jacob, hein, c'est le projet messianique qui devait absolument se continuer dans quelqu'un qui était digne de recevoir la primogéniture, qui était Jacob et qui n'était pas Ésaü. Alors après, il y a aussi cette idée que, et c'est ce que disent à peu près tous les commentateurs, et vous l'avez dû entendre 100 fois dans les homélies, c'est que c'est ces femmes, enfin ces femmes et, ou bien les autres aussi, hein, et tous les autres hommes qui sont mentionnés, là, hein, il y en a une quarantaine au moins, eh bien, c'est des pécheurs. C'est des pécheurs. C'est-à-dire que celui qui va venir, qui va s'appeler Jésus, fils de Dieu, Christ, eh bien, il n'a pas peur d'assumer dès sa naissance et dès avant sa naissance toute une lignée de pécheurs. Voilà. Et ça, c'est fondamental parce qu'il est venu pour ça. Donc, ça montre aussi, dès la généalogie, dès les premiers versets, à quel point son incarnation est fondamentale. Moi, Dieu, je envoie mon fils, je m'incarne. Moi, fils de Dieu, je m'incarne parce qu'on est dans le monde déchu, tout simplement, et qu'il y a forcément des pécheurs et qu'on en fait tous partie. Bon. Alors maintenant, comme vous savez, donc il y a plusieurs parties dans cette généalogie. D'ailleurs, les Bibles le découpent, hein, très clairement. Donc, Jessé engendra le roi David. Donc, première étape. Donc, il y a tous ces noms, hein, Esrom, Aminadab, Naasson, Salmon, Boaz, Joved, Jessé engendra le roi David. Point. Donc, première grande catégorie. David. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce point précis? David, on nous dit, il engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc, David et Salomon, ils sont mis ensemble. C'est toute l'histoire de la tribu de Judas. Et donc, toute l'histoire dont la littérature rabbinique va interpréter les actions de ce roi David. Et vous savez que pour la lignée juive, le roi David, c'est le roi par excellence. Et pourtant, c'est aussi un grand pécheur. Repenti, oui, bien sûr, heureusement. D'ailleurs, Dieu ne peut pas sauver les pécheurs qui ne sont pas repentis. Parce qu'il ne peut pas aller contre la volonté. Donc forcément, mais n'empêche, c'est le modèle du roi. Et Salomon arrive juste après. Et qu'est-ce que fait Salomon? Quand Dieu lui demande s'il veut de l'or, etc., il dit, moi, ce que je veux, c'est un cœur intelligent et la sagesse pour avoir le discernement. Et c'est parce qu'il a la sagesse du discernement qu'il va être un instrument, un artisan de paix, voilà, dont on peut en lire certains extraits dans le livre des rois. Et d'ailleurs, il a une certaine supériorité sur les démons, hein, Salomon. Et cette supériorité sur les démons nous vient d'un midrash sur la construction du temple. Et au moment de cette construction du temple, il y a un dialogue dans le midrash entre Salomon et Asmodée, le démon qu'on va retrouver dans le livre de Tobit. Et en fait, il va réaliser une sorte d'exorcisme, voilà, Salomon, dans le midrash, hein, je dis bien, qui explique qu'il a une supériorité par rapport aux démons. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint l'évangile de ce matin. Ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis. Alors moi, je me pose une question. Quand même, si on arrive à soumettre les démons, je veux dire, il ne faut peut-être pas en tirer gloire, mais n'empêche qu'on est content. Quoi. Quand le démon vient nous attaquer et qu'on arrive à le soumettre, on est quand même content parce que ça veut dire que Dieu nous a bien donné la grâce et la force pour combattre ce qu'on appelle tout simplement une tentation. Donc c'est quand même pas mal aussi. Même s'il faut viser le royaume de Dieu, et là, je suis bien d'accord. Et donc, et ce Salomon qui va être supérieur au démon, eh bien, il ressemblera, enfin, il ressemble comme type de l'antitype qui sera le Christ, qui lui va exorciser beaucoup de démons tout au long de sa vie terrestre. Alors ensuite, on nous parle de Ézéchias, donc deuxième partie, David engendra Salomon, Roboam, Avia, Asia, Josaphat, Yoram, Ozias, Yonatan, Akaz, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, etc. Jusqu'à, et Josias engendra Jéconias et ses frères, ce fut alors la déportation à Babylone. Deuxième étape. Qu'est-ce qu'a fait Ézéchias? Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la génération de Ézéchias et Manassé? Alors, le Talmud, Sanhédrin 99, dit, alors écoutez ça, c'est incroyable, quoi. Quant à Rabbi Hillel, il soutient qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, car il a déjà été consommé à l'époque d'Ézéchias. Ézéchias lui-même ayant été décrit comme celui qui aurait pu être le Messie, et qui finalement n'a pas mérité de l'être. Et Isaïe l'avait frappé d'une maladie, hein, comme on le voit dans le livre d'Isaïe chapitre 38, pour lui annoncer sa mort imminente, hein, prochaine. Et en fait, si vous vous souvenez bien, il se retourne vers le mur et il a 15 années supplémentaires. Et ces 15 années vont pouvoir donner naissance, vont pouvoir le permettre de donner naissance à Manassé, et parce qu'il fallait absolument que le Messie sorte de son sein ou de sa lignée. Donc il fallait qu'il ait des enfants, puisque lui, de toute façon, voilà, finalement, il n'a pas été le Messie. Donc il fallait que de sa lignée, Manassé, etc., continue la lignée pour que le Messie sorte de sa lignée. Et dans un autre dialogue du Talmud, en Berachot 10, Ézéchias demande « Pourquoi un si grand châtiment ?» Donc finalement de mourir, quoi. C'est parce que tu ne t'es pas occupé de ta descendance. C'est que j'avais prévu, grâce à l'Esprit Saint, que je procréerais de mauvais enfants, déclare Ézéchias. Réponse de Dieu. Est-ce que les desseins du miséricordieux te regardent? Ce qu'il t'a ordonné, tu dois le faire. Le Saint béni soit-il agira comme il lui plaira. Donc même si on a une intuition où on sait que ça va aller à la catastrophe, eh bien, il faut faire confiance dans ce que Dieu demande et Dieu va se débrouiller pour que ça, voilà, que ça marche, quoi. Et alors, Ézéchias avait vu juste, parce que si vous regardez ce qu'a fait Manassé, ce qu'a fait Amon, c'était des rois impies et des incapables. Et donc, ils font aussi partie de cette généalogie, qui font partie de ces pécheurs. Sauf que Manassé, il a eu une grande prière de repentance que nous avons dans nos nouvelles Bibles de la Tob et dans notre prière des grandes complies de carême, nous, en tout cas, dans la tradition byzantine. Voilà. Et mais Josias, voilà, donc tout ça, mais à un moment donné, il y a Josias, juste après, et Josias, lui, va être un grand roi, peut-être le dernier des grands rois d'Israël, qui va purifier le pays des idoles, qui va unifier le culte autour du temple de Jérusalem et qui va rassembler tout le monde autour de ce culte. Donc Josias, un très grand roi, qui fait partie aussi de cette généalogie. Donc quand vous entendez Josias, quand vous entendez les autres, vous pouvez vous dire « oulala », mais Josias, voilà, c'est un grand et il a vraiment fait retourner tout le cœur de son peuple pour s'orienter vers le temple de Jérusalem où il a unifié le culte. C'est à partir de lui que on avait plus toutes ces petits cultes dans tout le pays d'Israël. On avait seulement à Jérusalem le culte autour du temple. C'est lui qui a unifié. Donc c'est très important parce que autour du culte s'unifie le peuple et après s'unifie toute une communauté, toute une nation. Bon, donc voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc cette généalogie, et on est loin d'avoir fini, hein, on va continuer, pour bien comprendre, elle va nous mettre en éveil comment la vie de chacun de ces rois ou de ces personnages s'est déroulée. Est-ce que cette vie était en accord avec la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont écouté la parole de Dieu et mis en pratique? Ou est-ce qu'ils étaient en opposition à la parole de Dieu? Et notre liturgie, notre hymnographie du dimanche de la généalogie, l'hexapostillaire, nous dit la chose suivante. Donc c'est intéressant parce que si on est bien à l'écoute de notre propre liturgie byzantine, eh bien il y a un écho avec l'Évangile. Voilà ce que dit l'hexapostillaire. Premier des patriarches et pères d'avant la loi, Abraham, Isaac et Jacob ont brillé par la foi comme des astres. Car c'est de leur flamme que tous les prophètes et les justes ont reçu leur lumière comme des lampes lumineuses. Puis ils ont éclairé de leurs rayons par leur vénérable prophétie la création tout entière plongée dans les ténèbres. Donc ils sont une lumière et ils sont des astres. Et les astres, vous voyez ce que ça peut résonner pour Noël. Ils sont les justes de toute la création. Alors maintenant, troisième chose dont je voulais vous parler, c'est de la construction de cette généalogie dont on entend tout le temps parler, puisque après la troisième partie, après la déportation à Babylone, Jéconias, Zalatiel, Zorobabiel, Abiud, etc., Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Total des générations est donc d'Abraham à David. Heureusement, il nous met sur la piste, Matthieu. Total des générations d'Abraham à David, première période, 14 générations. De David à la déportation Babylone, 14 générations. De la déportation Babylone, 14 générations. Qu'est-ce que ça vient faire, ces 14 générations? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est 14? C'est 2 fois 7. Premièrement, c'est 2 fois 7. Donc, on a 6 septénaires avec le 7e. Et le 7e, c'est la venue du Messie et toute la fin des temps, qui est comme un septénaire, sachant que le chiffre 7, vous savez, c'est... Bon. Mais c'est aussi 14 générations. C'est une demi-lune et une demi-lune. Donc on a une demi-lune qui monte, une demi-lune qui descend et une demi-lune qui monte. Et après la demi-lune qui monte, c'est le Messie. Donc on n'a plus de descente. Et là, on est renvoyé à l'Apocalypse, il n'y aura plus ni lune ni soleil, il n'y a plus rien. C'est la lumière du Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin que la lumière de la lune descente, la pleine lune, parce que qu'est-ce qui va remplacer la lune? C'est le Christ. Et c'est écrit en toutes lettres dans l'Apocalypse. Je n'ai rien inventé. Donc ça, c'est fondamental d'avoir bien à l'esprit, sachant que le calendrier juif est un calendrier lunisolaire et que la lune est très importante. Toutes leurs grandes fêtes, c'est toujours à la pleine lune, ou presque toujours. Bon. Donc ça, c'est un premier point très important. Le deuxième point, c'est le nom David. Alors ça aurait été bien d'avoir un tableau, je vous aurais mieux expliqué. David. David s'écrit en hébreu, Dalet, Vav, Dalet. Vous savez que l'hébreu comme le grec, et j'insiste bien, comme le grec, donc on devrait être familier, chaque lettre représente un chiffre. David 4, Dalet 4, Vav 6, Dalet 4. Ce chiffre, c'est 14. Donc David lui-même, dans sa graphie, porte la valeur numérique de 14. Donc il y a bien l'idée de cette royauté qui monte, qui descend, qui remonte, et qui fait qu'elle ne s'éteindra plus jamais. Quoi. Hein? Donc, et c'est pour ça que peut-être aussi que celui qui a écrit celui-ci est le roi des Juifs sur la croix de Jésus, et ben voilà, il ne s'est pas trompé. Quoi. Même si on sait qu'il ne s'est pas trompé par ailleurs, mais en plus, ici, on a encore une confirmation que c'est bien lui le vrai roi de la création. Et donc, cet événement majeur de l'incarnation de Jésus arrive au sommet de cette troisième lunaison, demi-lunaison, enfin pleine lune. Et donc, on peut dire aussi qu'il y a une insistance non seulement sur le roi Messie, mais sur la lumière divine incréée, qui est la lumière divine incréée du premier jour. Puisque après cette pleine lune, dernière pleine lune, on débouche en fait sur la lumière incréée, sur la lumière christique, sur la lumière messianique, si vous vous souvenez bien, quel est le premier jour de la création? Et Dieu dit, et la lumière fut, que la lumière fut, vayomer, vayomer, et que la lumière soit. Vayoyi or, et que la lumière soit. Quel est le premier jour de la création? C'est un quel jour de la semaine? C'est un quel jour de la semaine? C'est un dimanche. C'est le dernier jour de la semaine, c'est Shabbat. Et il se trouve que la tradition juive dit
c'est cette lumière, puisque ce n'est ni celle du soleil ni celle de la lune, c'est la lumière messianique. Et on retombe sur nos pieds, avec le 7. Donc, allusion à la lumière divine incréée, que l'on va aussi retrouver encore une fois dans l'Apocalypse. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, Matthieu 24, donc c'est l'Apocalypse de Matthieu d'abord, avant celle de la fin, d'un air de dire, ben, tout ça, ça va terminer, mais il y aura une lumière, qui est la lumière messianique, qui sera là, et qui est déjà, j'ai envie de dire, de manière un peu cryptée, annoncée, ici, dans la généalogie de Matthieu. Et alors, du coup, on peut se poser la question, on peut se dire, est-ce qu'on a parlé d'Abraham, Isaac, Jacob comme des astres ? On parle comme Jésus de la lumière incréée, bon, ça on le sait, mais inscrit de manière un peu cachée comme ça, dès la généalogie, dès le premier verset de la Bible, quand Dieu proclame la lumière incréée. Et si nous regardons la manière dont Jésus vient au monde, nous ne savons pas s'il y a un bœuf et un âne dans la grotte. La grotte, on ne sait pas très bien si c'est vraiment une vraie grotte. Enfin, toute la manière de décrire la naissance de Jésus telle que les évangélistes nous le décrivent est plutôt empruntée au protoévangile de Jacques, en tout cas certains éléments. Et que dit le protoévangile de Jacques ? Il dit... Ils s'arrêtèrent à l'endroit de la grotte, une obscure nuée enveloppait celle-ci, et la sage-femme dit « Mon âme a été exaltée aujourd'hui, car mes yeux ont contemplé des merveilles, le salut est né pour Israël. » Aussitôt, la nuée se retira de la grotte, et une grande lumière resplendit à l'intérieur que nos yeux ne pouvaient pas supporter. Et peu à peu, cette lumière s'adoucit pour laisser apparaître un petit enfant. Donc, tout ça, vous allez me dire, bon, le protoévangile de Jacques, on ne le lit pas, c'est un peu... Mais tout ça, ça fait partie d'une tradition orale, que ce soit la tradition de la lumière du premier jour, que ce soit, qui forme une sorte de tissu, une sorte de patchwork, une sorte de puzzle qui commence à se créer et qui montre la cohérence absolue entre toutes les traditions orales, qu'elles soient celles d'Israël ou celles de chrétiennes, et les évangiles. Et il se trouve que nous, notre tropère de la nativité, ta nativité au Christ notre Dieu a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. Alors, il faudrait comprendre ce que c'est connaissance, il faudrait aller voir le grec, je ne sais pas si c'est gnosis, mais il faudrait peut-être aller voir le grec que je n'ai pas. Mais en tout cas, il a fait resplendir cette naissance, la lumière, hein, donc on retombe encore sur cette lumière, que nous a expliqué dans la généalogie que la pleine lune, elle va disparaître et c'est la lumière qui va la remplacer. En elle, les adorateurs des astres, et nous revoilà avec les astres, que ce soit les astres des patriarches ou les astres que admiraient les païens, puisque là, c'est par rapport à nos mages qui sont païens, apprirent d'un astre à t'adorer, ô toi, soleil de justice, et à te connaître, Orient, venu d'en haut, Seigneur, gloire à toi. Donc voilà, j'ai envie de mettre toutes ces choses ensemble, parce que c'est assez criant du point de vue de la cohérence. Et les bergers aussi sont entourés de lumière, voilà. Donc cette lumière, et c'est très important, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que si ma mémoire est bonne, et là nous avons je parle sous contrôle, si ma mémoire est bonne, on ne parle pas tellement, bien qu'il y ait beaucoup de lumière à Noël, que ce soit nos bougies, que ce soit comment on illumine nos églises ou nos maisons, on ne parle pas de cette fête comme une fête des lumières. Mais la fête qui s'appelle la fête des lumières, c'est la théophanie. C'est la théophanie. Or, ces deux fêtes sont ensemble. Au départ, elles sont célébrées ensemble. Puis petit à petit, on les a distinguées. Donc, ne mettons pas non plus trop loin la théophanie de la nativité du Christ. Et puis l'exapostillaire. Il nous a visité d'en haut l'Orient des Orients, et nous qui étions dans les ténèbres, nous avons trouvé la vérité, car le Seigneur est né de la Vierge. Nous qui étions dans les ténèbres, c'est-à-dire de dire, ben, ça y est, la vie, il nous a vraiment visités, quoi. Alors, je ne rentre pas dans les détails par rapport à la généalogie, parce que si vous remarquez bien, il n'y a pas 42 générations. Enfin bon, il n'y a pas le compte. Hein, pour ceux qui comptent en détail, il n'y en a que 13 au début. Enfin bon. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas forcément le plus important. Mais ce qui est très important, c'est que l'histoire d'Israël comme celle du monde, ne se finit pas avec l'incarnation du Messie. Elle continue au-delà de l'incarnation du Messie, mais ce qui se termine avec l'incarnation du Messie, en tout cas pour une part des humains, c'est le fait d'engendrer. C'est-à-dire le fait d'engendrer ne va plus du tout avoir le même sens à partir du moment où le Fils est engendré. Et c'est logique. Pourquoi est-ce qu'il fallait beaucoup engendrer? Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs pour les Juifs, qu'un rabbin soit marié, qu'un maître d'enseignement soit marié, que tout le monde, que les hommes se marient tous? C'est obligatoire dans le judaïsme. Parce qu'on ne sait pas si ce n'est pas dans ta maison que va naître le Messie. Mais c'est très important ça. C'est fondamental quand on attend le Messie. Mais quand on ne l'attend plus, entre guillemets, même si on l'attend aussi d'une autre manière dans son retour, on ne l'attend plus sous la forme, là, puisqu'il est, il est incarné, qu'il est remonté au ciel dans son corps, donc il n'y a pas de souci, eh bien, il y a une autre manière d'engendrer. Et cette seconde manière d'engendrer, qui est celle de tous ceux qui sont devenus moines ou célibataires consacrés, peu importe, qui ont décidé de donner cette capacité d'engendrement physique au Christ pour qu'il y ait un autre engendrement qui vienne. Et puis, de toute façon, même les couples et les familles peuvent aussi engendrer d'une autre manière. Mais cet engendrement-là, qu'on appelle l'engendrement spirituel, il a pris une place considérable, peut-être beaucoup plus grande, peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y a aussi la conscience et la dimension de l'engendrement spirituel dans la communauté juive jusqu'aujourd'hui. Elle est même très importante. Donc, voilà, après, il faut mettre des nuances, mais cette nouvelle façon d'engendrer, elle naît avec le Christ. Et dernier point, c'est juste pour vous dire ce qu'a voulu aussi expliquer Matthieu, aussi avec toute l'histoire concrète de la nativité, avec les mages, avec Hérode, voilà, tout le chapitre 1 et tout le chapitre 2 aussi, hein, qu'on connaît, on ne va pas la fuite en Égypte, etc., c'est de montrer le parallèle entre Jésus, entre la naissance de Jésus et la naissance de Moïse. Il faut bien comprendre, il parle à une communauté juive. Pour la communauté juive, j'ai envie de dire, le maître par excellence, c'est Moïse. Il n'y a pas d'autre maître que Moïse. C'est lui qui a reçu les tables de la loi. C'est lui qui a parlé bouche à bouche avec Dieu. Enfin, je veux dire, c'est le grand maître. C'est lui qui a tout, qui a fait le lien, hein, entre au Sinaï, et puis qui a reçu des révélations extraordinaires. Donc, c'est le maître. Qu'est-ce que Matthieu veut montrer? Il veut montrer à sa communauté qui, pour le moment, est encore focalisée sur Moïse, que ces petits enfants qui s'appellent Jésus, qui est né dans une petite crèche, qui a l'air de rien du tout, qui semble pauvre comme tout, et puis qui est normal comme tous les autres petits enfants, et à travers lequel on ne voit rien d'autre qu'un petit enfant, eh bien que lui, il est et comme Moïse, et plus que Moïse. Et comment il fait pour le montrer? Eh bien, il raconte l'histoire des mages, l'histoire des robes, d'Hérode, etc. Et pourquoi il raconte ça? Parce que voilà ce que dit la tradition juive sur la naissance de Moïse. Myriam a annoncé de manière prophétique. Donc, Myriam, en plus, c'est la seule de tout le Premier Testament qui a le même nom que Marie, la mère de Dieu. Je vous signale. Myriam, la sœur de Moïse, la sœur aînée de Moïse, qui a 10 ans quand Moïse naît. C'est la seule qui a son nom. Hein. Donc écoutez bien. Myriam, qui est dans la tradition juive appelée prophétesse, va annoncer la naissance d'un sauveur. Les fils des Hébreux ont eu des problèmes lorsqu'ils ont appris l'ordre de Pharaon et ils attendaient une consolation que Myriam leur annonce en annonçant cette prophétie. Au moment de la naissance de Moïse, comme Pharaon avait fait ce décret, tous les ceux qui naîtront des Hébreux, vous les lancez au Nil, tous les garçons, vous les lancez au Nil, qu'est-ce qu'a fait le père et la mère de Myriam, qui étaient déjà de ce monde? Ils ont dit, on se sépare, on divorce, entre guillemets, parce qu'on veut pas prendre le risque d'avoir un enfant, et donc, surtout, on n'a plus de relation. Comme ça, on n'aura pas d'enfant, puis comme ça, on va pas le tuer. Quoi. Et Myriam va voir ses parents, elle dit, non, parce que là, c'est vous qui êtes responsable. Si le grand Moïse ne naît pas, c'est votre faute. C'est parce que vous voulez pas vous remettre ensemble. Donc, ils se remettent ensemble, et comme Amram, le père de Moïse, il était chef de sa communauté, tous de la communauté se remettent tous ensemble, et tout le monde a des enfants. Donc, premier geste de Myriam, donc une vraie prophétesse, qui dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, parce que non seulement en plus tu supprimes les garçons, mais tu supprimes aussi les filles. Puisque peut-être tu peux avoir une fille. Bon, voilà. Donc tu peux faire ça. Alors ils se remettent ensemble. Et pendant ce temps-là, les astrologues égyptiens viennent voir Pharaon et disent « Nous voyons dans les astres que le sauveur des Juifs est sur le point de naître. Mais nous ne savons pas s'il est juif ou s'il est égyptien. » La vision des astrologues était obscurcie parce que Moïse, Moshe, bien qu'il va naître d'une mère juive, va être élevé par une mère égyptienne, et donc ils sont un peu obscurcis dans leur présage. C'est très intéressant, hein, puisque comme vous le savez, hein, pour ceux qui connaissent un peu le livre de l'Exode, c'est la propre fille de Pharaon qui va sauver Moïse du Nil. Donc vous voyez le truc absurde, quoi. Bon. Mais il y a ces astres, et il y a ce Pharaon qui veut tuer tous les enfants. Donc vous comprenez comment Matthieu adapte l'histoire pour faire coller l'histoire de la naissance de Jésus poursuivi par Hérode, où on va massacrer tout le monde et Jésus va s'en tirer parce qu'il va partir. En plus, il y a des songes. Il faut savoir que Myriam a eu un songe d'un personnage blanc qui lui révèle la prophétie. Amram, le père, a eu un songe. Enfin, tout le monde a des songes aussi dans le Midrash. Et donc, on voit bien que ce Midrash était parfaitement connu et de Matthieu et de ceux qui l'écoutent, de manière à ce que la naissance de Jésus montre tous les aspects, et puis cet astre qui brille de manière incroyable. Tout le monde dit, quand Moïse est né, il y avait un astre éblouissant qui était au-dessus de lui, et la maison était remplie de lumière. C'est ce qu'on raconte dans le Midrash. Donc on a des équivalences assez troublantes, on pourrait dire. Et ces équivalences, elles sont voulues parce que Matthieu s'adresse à une communauté qui sait tout ça. Et qui ne pouvait pas imaginer que le futur Messie, le grand que Matthieu est en train d'annoncer, et qui en plus va se révéler plus tard le Fils de Dieu, eh bien, qu'il soit moins grand que Moïse, quoi. C'était pas possible. Il fallait qu'il y ait au moins tous ces miracles, sauver d'un exterminateur, une énorme lumière, quelque chose de miraculeux, etc. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ce récit de la nativité. Alors, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Que ce soit la donnée de la généalogie, que ce soit la donnée plus globale de la naissance de Jésus. Eh bien, il faut bien se rendre compte d'une chose, ça c'est très important. Si vous lisez Luc, vous avez une autre version de la naissance et une autre version du contexte de la naissance. Quelque chose qui concorde pas très bien. D'ailleurs, il ne naît pas dans une grotte, il naît dans une maison, etc. Enfin, ça ne concorde pas très bien. Et donc, vous vous dites... Donc, on peut être troublé. Donc, tous les pères de l'Église ont vu ça. Hein. Évidemment que ça ne concordait pas. Tous ceux qui regardent avec un peu d'attention. Et donc, on peut être troublé par ça. On se dit, mais alors, c'est où la vérité? Et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important parce que la vérité, ce n'est pas du réel. Ce n'est pas du factuel. Il a mis son pied devant l'autre et à 3h de l'après-midi, et il y a eu ça. Ce n'est pas seulement du factuel, ça peut l'être, mais ça n'est pas seulement ça. La vérité, c'est la vérité théologique. C'est théologiquement, qu'est-ce que je peux dire de ce petit enfant qui est en train de naître? Et si c'est lui le vrai salut d'Israël, hein, comme dit Myriam à propos de Moïse, si c'est lui, eh bien il s'appelle Yeshua, c'est-à-dire le salut, c'est le salut en personne. C'est le salut en personne. Et donc, eh ben, écoutez-le. Comme on le dira aussi à la théophénique. Écoutez-le, quoi. C'est lui le salut en personne.